entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec monsieur François-Xavier Dugourd, vice-président délégué du conseil départemental, que je reçois aujourd'hui comme président d'Orvitis, l'office départemental d'HLM, je crois qu'on les appelait comme ça.
C'est ça.
Quelques années.
Oui, voilà. Bonjour.
Bien, donc je souhaite dans un premier temps que nous parlions de la question du logement social, du diagnostic qui est fait, puisque nous savons qu'il manque de logements sociaux dans notre pays et dans notre région et aussi sur Dijon, et un petit peu voir comment Orvitis s'inscrit dans cette nouvelle politique pour essayer de développer le logement social et de l'adapter aux besoins de la population.
Absolument, c'est effectivement une mission passionnante, mais un petit peu compliquée. Donc les offices publics de l'habitat, ex-office HLM, effectivement pour mission d'offrir aux habitants de leur territoire des solutions d'habitat qui soient diverses. Alors sachant que nous sommes reliés au conseil départemental de la Côte d'Or, hein, c'est notre collectivité de rattachement, et donc nous sommes un établissement public, hein, qui n'a pas de but lucratif, hein, les bénéfices que nous faisons sont réinvestis dans notre territoire. Alors Orvitis, en quelques mots, c'est 13 000 logements en Côte d'Or, un peu plus de 13 000 logements. Nous sommes présents sur 130 communes du département, donc sur la métropole dijonnaise, environ 4 500 logements sur la métropole dijonnaise, et le reste sur l'ensemble du territoire. Parce que c'est important, nous sommes un organisme, un bailleur social, qui parfois, contrairement à d'autres, n'est pas centré sur un territoire, mais on travaille à la fois pour le milieu urbain, mais également pour le milieu rural, et c'est très important pour nous. L'idée, c'est vraiment, en lien avec le département, d'avoir une politique d'aménagement du territoire et d'offrir aux habitants, et en particulier aux plus modestes, aux plus fragiles, des solutions d'habitat qui soient diverses.
Alors, la question, je ne peux pas l'éviter, la question c'est comment se fait-il et qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui on manque de logements sociaux dans notre pays? Et comment vous, l'analyse que vous faites, et comment, on verra après, vous allez remédier?
Alors, ça s'inscrit dans une crise globale du logement, au niveau national et parfois international. Mais en tout cas, en France, depuis un certain nombre d'années, nous sommes dans une vraie crise du logement, à la fois du logement privé, mais également du logement social. Il faut dire que, malheureusement, ce dossier du logement, qui est pourtant un dossier essentiel, puisque c'est le premier poste de dépense des Français, des ménages, hein, a longtemps été peu considéré par nos dirigeants, quels qu'ils soient. Et donc, cette politique du logement, à mon sens, elle n'est pas suffisamment percutante et efficace par rapport aux demandes. Alors pourquoi crise du logement et en particulier sur le logement social? Parce qu'effectivement, nous avons une demande qui augmente du fait de la précarisation de la société. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, la demande de logement social a augmenté quasiment de 20% en quelques années, en 2 ou 3 ans. Alors que par ailleurs, la production de logements social n'a pas augmenté à la même vitesse, loin de là. Pourquoi? Parce qu'on a des problématiques financières qui sont très importantes et des problématiques également normatives. Je m'explique. Le logement social, aujourd'hui, il est largement alimenté par les loyers. Nos ressources principales, ce sont les loyers, puisque les aides publiques ont sensiblement diminué. Or, il se trouve qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années, en particulier en 2018, un dispositif qui s'appelle la RLS, la réduction de loyer de solidarité, qui est en fait une taxe sur le chiffre d'affaires des bailleurs sociaux, ce qui a considérablement diminué leur capacité d'investissement. Si on prend l'exemple d'Orvitis, nous c'est par exemple chaque année 3 millions d'euros qui sont ponctionnés sur notre chiffre d'affaires et qui réduisent considérablement notre possibilité d'investissement.
Par l'État.
Alors, ponctionné par l'État complètement pour compenser la baisse des APL qui a été décidée en 2018. D'accord. Et il a demandé aux bailleurs sociaux d'assurer cette compensation, ce qui pour nous était un handicap assez important. Et puis par ailleurs, on a subi aussi toute une série de phénomènes comme la hausse de la TVA sur les travaux, mais également ces dernières années, la hausse du livret A. Alors heureusement, il y a eu une baisse récente, mais le livret A, ces dernières années, était passé de 0,5 à 3%. Or, les emprunts que nous faisons pour nos investissements, hein, à la fois du neuf mais aussi la rénovation, sont assis sur le livret A. Et donc, quand le taux des livrets A augmente, eh bien, automatiquement, notre endettement automatiquement augmente. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces phénomènes cumulés également à la hausse de la coût des constructions liée à la crise du Covid, liée aux crises internationales, les coûts de production de logements ont considérablement augmenté ces dernières années. Il y a 25 ans, on construisait un logement à environ 70 ou 80 000 euros. Aujourd'hui, on est entre 160 et 170 000 euros. Vous voyez, donc les coûts de construction ont augmenté. Donc, il y a un phénomène à la fois de diminution de ressources, d'augmentation de nos dépenses du fait des coûts de construction, comme par ailleurs... Il y a également toute une évolution législative sur les normes, et notamment les normes environnementales, qui est évidemment une bonne chose. Mais il faut assumer ces investissements de rénovation énergétique des bâtiments. Et en particulier, vous le savez, les normes qui ont été posées sur les logements aux étiquettes E et G, qui doivent être éradiquées à l'horizon 2034.
Merci beaucoup pour cette analyse très claire. Avant de revenir sur les questions énergétiques, qui sont très importantes, qu'est-ce qu'il en est de la production de logements pour Ovitis et comment Ovitis contribue à répondre aux besoins de la population localement et continue à faire son travail malgré les difficultés que vous venez d'énoncer?
Eh bien, on continue effectivement la production de logements neufs, hein, on regarde nos capacités d'investissement, hein, sachant que les besoins, encore une fois, nous sommes un organisme départemental, donc les besoins sont importants en termes quantitatifs, effectivement, notamment dans les villes et en particulier dans la métropole dijonnaise, où il y a environ, semble-t-il, 10 000 demandes de logements en attente, mais également les besoins aussi importants à Beaune, ou en milieu rural, où là, c'est plutôt des investissements qualitatifs pour améliorer la qualité des logements et remettre des logements aussi sur le marché. Parce que ça aussi, c'est une notion importante, qu'il n'y ait pas de logements vacants et que tous les logements qui sont à disposition puissent être occupés par des gens qui en ont besoin.
Ça veut dire que vous rachetez des logements éventuellement du
secteur ? Non, ça veut dire qu'on rénove, par exemple, vous voyez, en milieu rural en particulier, mais c'est aussi le cas en milieu urbain, il y a des logements qui aujourd'hui ne sont plus adaptés, par exemple, en termes d'accessibilité. Il n'y a pas d'ascenseur, parce que nous avons hérité, les bailleurs sociaux, d'un patrimoine des années 60-70 où on ne parlait pas d'accessibilité, on ne parlait pas de normes écologiques, etc. Et on avait souvent des grands logements. Or, aujourd'hui, la demande, elle est beaucoup sur les logements T2, T3. Il faut savoir que 50% des personnes qui logent dans les logements sociaux au niveau national, hein, mais ça se reproduit au niveau local, sont des personnes seules. Et 25% des familles monoparentales. Donc 75% des logements, c'est des familles avec un seul adulte. Parce qu'il faut bien voir aussi que le logement social, ce qui en fait d'ailleurs une matière extrêmement passionnante, est au cœur des évolutions de la société. Parmi ces évolutions, il y a le vieillissement de la population dont on va reparler, mais il y a aussi l'éclatement de la famille. Et du fait que des divorces en particulier, des familles qui sont de plus en plus monoparentales, eh bien, il faut de plus en plus de logements. Bien sûr. On multiplie le nombre de logements nécessaires.
Là, il m'a semblé que vous aviez une ambition qui était d'augmenter le taux de logement locatif, hein, sur le territoire. Vous étiez autour de, je crois, 8,3% dans les années 2023-2024 et que vous avez un objectif de 10%, c'est ça ?
Oui. Okay. Oui, donc ça passe effectivement par la production de logements neufs, en particulier en milieu urbain, mais aussi par la rénovation d'un certain nombre de bâtiments existants qui permettent, bien que des logements qui peuvent être vacants aujourd'hui, eh bien, sont occupés également par des personnes qui attendent ces logements.
Alors revenons justement sur la rénovation et les enjeux de la rénovation, en termes notamment de qualité et de diversification pour les demandeurs. Et notamment la question de la performance énergétique qui n'est pas une mince affaire, si j'ai bien compris.
Oui, c'est un enjeu fondamental parce que lorsqu'on fait une opération de rénovation énergétique, ça a de multiples intérêts. Les intérêts pour la planète, évidemment, puisqu'on sait que les bâtiments consomment, produisent des gaz à effet de serre. Hein. Mais au-delà de ça, il y a un intérêt aussi pour l'économie, hein, parce qu'on fait travailler des entreprises. Mais il y a aussi un intérêt pour le pouvoir d'achat des locataires, parce que lorsqu'on réalise une opération de rénovation énergétique, eh bien on arrive à faire baisser le budget des familles consacrées à l'énergie de 20 à 30%, ce qui n'est pas négligeable dans le budget d'une famille. Mais il faut savoir que ces opérations sont très lourdes, parce qu'on ne fait pas à la petite semaine, hein, c'est-à-dire c'est des opérations globales où on reprend les façades extérieures, on reprend l'accessibilité des bâtiments, mais on reprend également l'intérieur, on reprend les huisseries, on reprend les portes, enfin, on travaille sur le chauffage. Enfin, c'est des opérations globales qui sont très intéressantes en termes d'efficacité, mais aussi évidemment coûteuses, d'où et coûteuses et souvent avec là encore moins d'aide publique que sur les opérations de production de logements neufs. Et c'est tout le problème. Alors, Orvitis s'est engagé, nous, on a voté ces dernières années un programme de 100 millions d'investissements sur ces opérations d'éco-rénovation, ce qui veut dire que nous allons éradiquer les étiquettes EFG à l'horizon 2030, alors que l'obligation légale est à l'horizon 2034. Donc on va anticiper, parce que ça nous semble des investissements absolument indispensables pour notre territoire et pour ses habitants.
Alors, j'ai vu que vous aviez fait partie d'un programme qui est quand même intéressant, je crois, au niveau européen, le programme RESPONSE. Peut-être en dire un mot, parce que ce n'est pas banal.
Absolument, c'est un programme qui a été labellisé au niveau européen, qui se déroule essentiellement à la Fontaine d'Ouche. C'est un programme qui, pour nous, sur la Fontaine d'Ouche, on a un patrimoine d'environ 600 logements. On a déjà éco-réhabilité une partie d'entre eux, mais ce programme RESPONSE concerne 220 logements, avec, comme je vous l'ai dit, tout un travail sur le bâtiment, hein, à travers les opérations de rénovation des huisseries, des portes extérieures, mais également l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, hein, afin d'arriver à l'autoconsommation, autoconsommation pour les parties communes et dans les logements. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, par ailleurs, on expérimente des thermostats prédictifs pour piloter et gérer les consommations d'énergie. Aujourd'hui, l'investissement que Orvitis fait sur la Fontaine d'Ouche dans le cadre de ce programme RESPONSE, c'est quasiment 10 millions d'euros. Donc, effectivement, c'est une opération extrêmement intéressante.
Alors, il y a une autre dimension dans votre travail qui est très importante, c'est que les gens vivent, c'est un moment important dans leur vie, dans leur parcours, ça peut durer, parcours résidentiel parfois chez vous d'ailleurs, hein,
oui,
en fonction des besoins, de l'évolution de la famille. Donc, c'est la question de la qualité de la vie, la proximité avec la cité. C'est aussi des questions de sécurité, des questions de confort. Alors, on a tendance à dire que le monde HLM aurait du mal actuellement, par exemple, à intervenir rapidement et correctement sur des problèmes d'ascenseur, sur des problèmes d'entretien, des problèmes de propreté. Qu'est-ce qu'il en est et comment Orvitis travaille pour que les locataires se retrouvent dans la qualité de leur vie quotidienne, qui est un moment important, parce que dans des grands ensembles, notamment.
Vous avez raison, et ces problèmes de vie quotidienne, ces problèmes de panne d'ascenseur, ces problèmes de chauffage sont des problèmes fondamentaux qui touchent, on le sait bien, à la qualité de vie essentielle pour beaucoup de nos locataires. Alors, comme beaucoup d'organismes HLM, on est très attachés évidemment à ce travail. C'est un travail qui n'est pas facile parce que on est relié à des bâtiments qui sont parfois anciens, dans la conception a été ancienne. On est aussi tributaire d'un certain nombre de prestataires, hein, d'entreprises qui sont en Côte d'Or de bonne qualité, mais il peut y avoir des prestataires défaillants, sur le chauffage en particulier, ça nous est arrivé, où on est dépendant d'une entreprise qui n'intervient pas ou qui n'a plus le personnel pour entretenir telle ou telle chaufferie. Et puis sur les ascenseurs, c'est un monde très complexe. C'est évidemment capital qu'un ascenseur fonctionne et soit réparé le plus rapidement possible. Et notamment des établissements, enfin des bâtiments où il y a des personnes âgées ou des personnes handicapées. Mais sauf que parfois les ascenseurs sont de conception ancienne et des modèles qui ont disparu. Ça veut dire que c'est parfois le problème d'une pièce détachée qu'il faut commander à l'autre bout du monde ou presque, hein, qui n'existe plus, un fabricant qui n'existe plus évidemment. Et donc parfois les retards dans les réparations d'ascenseurs sont aussi liés à cela. Mais nous, on a mis en place toute une série de critères et d'indicateurs et également des réponses de proximité avec nos locataires pour que très vite on détecte les problèmes et qu'on y réponde le plus vite possible. On est jugé là-dessus, hein. Il y a des organismes extérieurs qui nous labellisent, qui contrôlent effectivement tout ce que nous faisons sur le service aux locataires. C'est pour nous essentiel. Pas facile, on peut être amélioré, hein, il y a des choses à améliorer, mais on essaie chaque jour avec notre personnel. On a un personnel qui est vraiment de grande qualité, qui est à l'écoute, qui est disponible, qui est sur le terrain. Et ça, c'est important sur les organismes HLM.
En dire un mot, parce qu'à un moment donné, il y avait des gardiens, ils ont disparu, il y avait des lenteurs, enfin, on l'a connu dans d'autres départements que je connais bien, mais justement cette proximité, comment vous la restructurez, comment vous la
Alors,
faites
ça,
vivre.
C'est un sujet très important parce que le monde du logement social, il évolue beaucoup et dans certains territoires, il n'y a plus d'organismes reliés aux collectivités locales. En clair, ce sont des organismes nationaux qui gèrent les organismes de logement social. C'est pas le choix qui a été fait en Côte d'Or et en Vitis avec l'aide du département et d'autres collectivités. On veut absolument maintenir ces organismes de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que premièrement, comme je vous l'ai dit, on est présent sur l'ensemble du territoire et on travaille aussi bien en ville qu'à la campagne. Mais deuxièmement, nous avons des agences de proximité. Orvitis a 4 agences en Côte d'Or, une à Dijon, une à Chevigny, une à Beaune, enfin Dijon, c'est Dijon-Chenauve, une à Chevigny-Saint-Sauveur, une à Beaune et une à Montbard. Et donc, on est très proche des territoires avec des agents qui sont prêts à intervenir dans les bâtiments de manière très rapide. Donc, pour nous, la proximité est une valeur fondamentale.
Il y a une autre question, évidemment. Bon, la propreté, je dis, ce n'est pas vraiment un problème aujourd'hui, mais en tout cas, la question de la sécurité, sans rentrer, évidemment, dans des questions d'ordre d'analyse politique ou sociale hein, ou sociétale, mais un petit peu comment vous rassurez les gens dans des moments difficiles, comme à Fontaine-Douche, il y a eu des moments difficiles actuellement liés...
Alors, il faut savoir que le bailleur social... a des compétences, mais il n'a pas toutes les compétences.
Certes.
La responsabilité de l'ordre public dépend à la fois de la mairie et des communes, mais également de l'État. En revanche, on travaille étroitement avec les mairies, et pour nous, c'est dans notre ADN, justement, Office public de l'habitat du département. Notre ADN, c'est de travailler étroitement avec les équipes municipales, quelles qu'elles soient. Hein. Donc, encore une fois, 130 communes, et on travaille vraiment de manière très efficace et volontaire avec les équipes municipales, les conseils municipaux et les services, et puis avec les services de l'État. Et alors, quand un problème majeur de sécurité se pose, et je prends l'exemple d'un point de deal, parce que c'est évidemment, on est situé dans un certain nombre de quartiers où le trafic de drogue existe, et c'est vous le savez, c'est un des problèmes majeurs de notre société. Eh bien, on essaye au plus vite, et ça a été le cas il y a environ un an, où nous n'avions pas de point de deal installé à Chenauve, et ils étaient chez un autre bailleur social, et un point de deal s'est installé dans une de nos cages d'escalier. Grâce à l'intervention, je suis intervenu très vite auprès du Frais, qui a été très efficace, avec les services de l'État, avec notamment la police et la mairie. Et donc, en quelques jours, le point de deal a été éradiqué. Mais donc, il faut être particulièrement vigilant parce que derrière, c'est aussi la qualité de vie des habitants
hein,
qui doivent se sentir, nos locataires qui doivent se sentir en sécurité dans leur logement et dans leur immeuble.
Alors, je pensais aussi en termes de sécurité aux questions plus sociales de gens qui... parce que le bailleur social est très présent et connaît très bien les gens et son quartier.
Oui.
Et parfois, il peut amener des éléments d'analyse,
aussi
bien général que particulier. Et je pense à des personnes âgées qui dévissent, qui s'isolent, qui vont mal. Je pense à des gens qui s'alcoolisent, etc. Et je sais que vous pouvez être dans des lieux de veille sociale, de conseil de quartier. Vous pouvez être aussi des éléments qui apportent de l'information de qualité pour permettre aux gens de ne pas s'effondrer et de ne pas se noyer dans des vies difficiles.
Vous avez totalement raison.
Je pense que c'est important d'en parler.
Vous avez totalement raison. Et on travaille étroitement avec les services du département en matière sociale, mais également avec les équipes des communes, les services d'action sociale des communes, pour intervenir en amont, avant que les problèmes dégénèrent et qu'une famille se retrouve complètement dans un état de dénuement. Et donc, on fait tout un travail d'accompagnement, de suivi et d'aide quand c'est possible, en mobilisant les aides potentielles pour que les situations ne dégénèrent pas et que la famille puisse continuer à vivre dans son logement de manière digne. Et donc, ça, c'est vraiment un travail que nous faisons de manière très précise, c'est de la dentelle. Hein. Et on suit quasiment chaque famille en difficulté de manière régulière.
Oui, c'est important parce que je crois que les auteurs ne savent pas que vous participez à toutes les actions de veille sociale ou les conseils de sécurité de quartier, je ne sais plus les noms parce que ça change selon les lois. Mais en tout cas, vous êtes très présent dans l'articulation entre les différents acteurs hein, de la vie publique et de la vie sociale. Hein.
Absolument, y compris les processus de médiation qui existent dans les communes importantes, notamment dans les secteurs de la politique de la ville.
Très bien. Alors, il y a un autre point qui est particulier, mais qui existe, c'est l'accès à la propriété, l'accès social à la propriété. Et je pense que c'est important pour boucler cette première intervention de parler de cette question, hein, pour permettre à des gens modestes aussi un jour d'accéder à la propriété, à leur parcours.
Vous avez raison, parce que le parcours résidentiel, c'est pour nous essentiel, parce que le logement social n'a pas vocation à être l'habitat de toute une vie. On doit pouvoir, si les personnes le souhaitent, accéder à la propriété. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Donc il y a une partie de nos patrimoines qu'on vend, hein, à certains locataires qui sont intéressés. Mais également, on essaye d'aider, alors avec des dispositifs de l'État qui malheureusement ont connu des baisses sensibles, mais tous les processus des PSLA, hein, ce qu'on appelle les prêts sociaux d'accession à la propriété, ça c'est des choses qu'on essaye de favoriser au maximum. Mais cette accession à la propriété, elle est malheureusement depuis quelques mois au niveau national bloquée du fait de la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu ces dernières années. Et puis en plus, des dispositifs comme le PTZ, le prêt à taux zéro, qui avait été supprimé, enfin, ou réduit sensiblement, eh bien, ce dispositif qui, heureusement, a été rétabli depuis quelques temps sur l'ensemble du territoire, et il est essentiel aussi pour permettre à des jeunes familles, en particulier, d'accéder à la propriété et d'avoir un parcours résidentiel. Encore une fois, que le logement social ne soit pas le logement toute une vie. Donc, dans nos programmes, lorsqu'on travaille avec une commune, eh bien, on essaie de mixer les différents produits, les différents types de logements, et notamment d'intégrer des logements d'accession à la propriété.
Très bien.
C'est essentiel.
Je rappelle que nous sommes donc avec M. François-Xavier Dugour, vice-président délégué du conseil départemental et président de l'office d'habitat Orvitis. Je vous remercie pour cette intervention. Nous aurons l'occasion de revenir avec vous pour parler d'un autre sujet qui est très important, qui est celui du vieillissement de la population dans le logement HLM. Merci beaucoup, Monsieur Dugour.
Merci à vous.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.